Radio Okapi.
Le journal Fulbert Balolagué.
Treize personnes sont mortes mardi dernier dans un naufrage sur le fleuve Congo dans les Lualaba. Le ministre provincial des Transports confirme cette information et attribue à une panne technique un mauvais chargement. Les jeunes et les femmes du Sud-Kivu doivent favoriser le déroulement apaisé du processus électoral en province. C'est l'idée de l'organisation Women International Peace Center qui sensibilise des associations de femmes et des jeunes. Notre invité ce midi est le professeur Paul Tchawa, secrétaire général au ministère de l'Environnement au Cameroun. Il analyse des pistes de solutions pour une coopération régionale durable et la promotion de la zone de libre-échange en Afrique. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous venons de l'apprendre. 13 personnes sont mortes mardi dernier dans un naufrage survenu sur le fleuve Congo dans les Lualaba. D'après le ministre provincial des Transports qui confirme cette information, cet accident serait causé par une panne technique et un mauvais chargement. Jean Gandou.
D'après le ministre provincial de transport dans le Lualaba, cet accident s'est produit mardi pendant la nuit. Les passagers venaient d'un site minier où on exploite le cuivre et se rendaient au village Manfoué dans le territoire de Mouchacha. Ce dernier est situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kolwezi. La barge avait à son bord plusieurs passagers et des marchandises. D'après Pichundai, arrivé à quelques encablures de ce village, à cause d'une panne technique et de la surcharge, la barge se serait heurtée à un objet et elle s'est renversée. On a dénombré 13 morts, dont 9 hommes, 3 femmes et un bébé. Il y a eu également 5 rescapés et toutes les marchandises sont tombées dans l'eau. Pichundai regrette que les propriétaires des embarcations ne respectent pas les mesures précédemment prises interdisant les voyages nocturnes sur le fleuve. En outre, rapporte-t-il, la plupart des barges qui opèrent la nuit transportent souvent au-delà de leur capacité, contrairement à ce qui est recommandé. Et si toutes ces mesures étaient observées, les vies humaines seraient préservées, nous a-t-il indiqué. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, 9 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF la nuit de jeudi à ce vendredi dans 2 villages du groupement de Batangimbao. Selon des sources de la société civile dans la région, il s'agit d'un bilan provisoire car la fouille pour trouver des personnes portées disparues se poursuit. L'armée est déployée dans la région. André Kitenge pour les détails.
C'est vers 3h du matin, heure locale, que les ADF ont attaqué simultanément Maobu et Makodou, deux villages du groupement de Batangimbao. Selon Kinos Katuo, un des notables de la région, les assaillants ont tué 9 personnes, dont 5 au village Maobu et 4 autres au village Makodou, situé à plus ou moins 40 km au nord d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. D'autres personnes sont portées disparues. Des maisons ont été incendiées par les assaillants, ajoute-t-il. Cette attaque a provoqué un déplacement de la population vers des milieux jugés sécurisés. Un calme précaire est observé ce vendredi matin après le déploiement des soldats des FRDC dans la région. L'armée, à travers le porte-parole des opérations Sokola 1, indique que la situation est bien sous contrôle des FRDC et promet de se prononcer dans les heures qui suivent. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Insécurité dans le territoire de Kwamout, au Maïndombe, on en parle encore. Quelques militaires tués, une dizaine blessés et des miliciens Mobondo arrêtés. C'est le bilan des affrontements mercredi et jeudi entre l'armée et la milice Mobondo au village Nso. Les militaires en opération dans ces coins sont tombés dans l'embuscade de ces miliciens, rapporte le président de la société civile de Kwamout. Martin Souta appelle le gouvernement congolais à multiplier des efforts pour que la paix et la sécurité soient restaurées dans cette partie du pays. Les points avec Irène Mboma.
Les sources de la société civile du territoire de Kwamout qui alertent rapportent que les violents affrontements ont eu lieu dans la journée de mercredi et de jeudi dernier entre les militaires FRDC et la milice Mobondo. Les faits se sont passés précisément au village Ncho, situé à 45 km de Kwamout cité, chef-lieu de cette entité territoriale. D'après les mêmes sources, ces miliciens qui s'organisent toujours pour maintenir l'insécurité dans cette partie de la province du Maïndombe depuis plus d'une année ont tendu une ambition au FRDC dans cette localité entourée de forêts. Le bilan provisoire fait état de quelques morts et d'une dizaine de blessés dans les camps des militaires, indiquent nos sources. Et du côté des assaillants, le nombre de morts reste aussi inconnu, mais la société civile de Kwamout parle de plusieurs Mobondo arrêtés et transférés à Kwamout pour le moment. Martin Souta, président de cette structure citoyenne, plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires pour pacifier définitivement la région afin que la population puisse vivre dans la quiétude. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Rendons-nous ensuite Kivu. Dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira, la situation est revenue au calme hier à Kachatu, un groupement des Runingu dans les sites des rassemblements des ex-combattants. Ces derniers s'opposent à l'organisation de la cuisine commune que vient d'instaurer les PDD-RCS depuis une semaine. Une situation qui a poussé certains d'entre eux à faire défection et retourner en brousse. Les notables de cette entité plaident pour une prise en charge appropriée de ces combattants. Ils l'ont fait savoir à une équipe d'évaluation de la situation sécuritaire de la MONUSCO qui s'est rendue sur place mercredi dernier. Fiston Goma pour d'amples détails.
Ces rendus s'opposent à l'organisation de la cuisine commune que vient d'instaurer le PDDRCS depuis une semaine. Le week-end dernier, un rendu eux-mêmes entré en altercation avec un chef magasinier, réclamant qu'on lui remette sa ration alimentaire au lieu du repas collectif. Contacté, les chefs d'antenne du PDDRCS Uvira Samuel Matabishi confirme avoir suspendu les systèmes de dotation alimentaire individuelle à la suite de quelques dérives constatées sur les rendus. Certains d'entre eux revendaient directement leur ration alimentaire aux commerçants. Avec cet argent, ils pouvaient passer toute la journée dans des débits de boissons, puis retourner le soir affamés dans les sites. Des cas d'évanouissement ont été rapportés, déplore-t-il. Chaque semaine, l'OIM remet au PDDRCS une quantité de farine, de maïs, des haricots, du sucre et du sel pour nourrir les rendus de Kachatu. Cependant, les notables de Runingu ont signalé mercredi dernier à une équipe de la MONUSCO en mission d'évaluation dans la zone que cette nourriture est insuffisante pour les combattants. Ils craignent que ce dernier n'insécurise la zone et affirment que plus de 100 parmi ces rendus sont retournés dans la brousse fouillant ces conditions de vie précaires. Le chef du PDRCS Uvira Samuel Matabi chez lui précise que ces rendus sont en visite des familles et ne sont pas encore retournés à Kachatu.
Les jeunes et les femmes du Sud-Kivu doivent correctement jouer leur rôle majeur au cours du processus électoral. C'est celui de favoriser le déroulement apaisé du processus électoral en province. Des associations des femmes et des jeunes sont sensibilisées par l'organisation Women International Peace Center, ceci pour promouvoir la participation des jeunes et des femmes pour favoriser un bon climat de paix. Bahati Rubango, coordonnateur de Women International Peace Center, revient sur l'essentiel de la sensibilisation. Il est au micro de Hortense Zabona.
On voudrait que les femmes comprennent exactement qu'elles ont un grand rôle à jouer, d'abord comme électrices, ensuite comme candidates, parce que notre souci, c'est de promouvoir la participation effective des femmes au processus électoral en République démocratique du Congo. Mais aussi, on sait que les élections provoquent toujours des tensions et que qui voit la femme pour nous voit la paix. Et donc, on voudrait qu'on puisse outiller les femmes pour qu'elles puissent jouer pleinement ce rôle-là de paix en période de campagne électorale. Nous envisageons en même temps faire le monitoring de violation des droits des femmes et des jeunes au processus électoral, et aussi développer au sein des acteurs de la société civile qui sont des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des techniques de communication sensibles au conflit. Et nous sommes convaincus que les jeunes jouent un rôle crucial et les femmes pour les élections, mais par moments les jeunes sont en même temps à la base des violences et des troubles. Notre message, les jeunes et les femmes devraient œuvrer pour la paix et la sécurité. Les jeunes devraient décourager tout discours de haine, tout discours d'attaque, tout acte de violence, y compris contre les femmes et contre les enfants, et à lutter contre les actes de vandalisme.
Pendant ce temps, au Maniema, bien qu'étant en prison, la campagne électorale de Salomon Idi Kalonda de là est lancée dans la ville de Kindu par les partis Ensemble pour la République. Selon les coordonnateurs provinciaux adjoints d'Ensemble, les membres d'Ensemble et de la dynamique Salomon Idi Kalonda sont déterminés à faire élire ces derniers à la députation nationale dans la ville de Kindu. Ils espèrent vivement que leur candidat obtiendra de la justice la possibilité de se faire soigner à l'étranger car il est malade. En ce moment, il estime aussi qu'il pourra être relaxé puisque son dossier est vide. Amissi Tchomba Didone est au micro de Florence Kizalunga.
Le parti Ensemble pour la République dans la province du Maniema a lancé sa campagne après le lancement officiel de la campagne de ce parti à Kisangani par le président national. Le parti Ensemble l'a présenté le candidat à tous les niveaux, notamment à la présidentielle Moïse Katumbi Tshiapu, le numéro 3, et à Kindu, à la députation nationale, nous avons notre candidat Salomon Idi Kalonda. Bien entendu, il est en prison, mais les membres du parti Ensemble dans la province se mobilisent pour faire élire les candidats Salomon, bien qu'il soit en prison injustement. Être en prison n'empêche pas à la population de Kindu d'élire leur fils, leur candidat préféré, Salomon Idi Kalonda. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve dans le cadre de développement dans cette province. Personne n'ignore combien le candidat Salomon s'investit dans le développement de la province du Maniema. Il n'y a pas longtemps, il a ouvert la route de Kindu Kibombo, long de 157 km, lui-même par ses fonds propres. Non seulement cela, il est en train de construire un bloc opératoire à l'hôpital général de Kindu et il a appuyé différentes structures de développement dans la province du Maniema.
Au Kwilu, la nouvelle société civile du territoire d'Idiofa dénonce les désordres et troubles qu'occasionne la campagne électorale dans la cité d'Idiofa, chef-lieu du territoire. Selon Arsène Kassiama, coordonnateur de cette structure, les candidats députés nationaux et provinciaux ont distribué aux jeunes des gros baffles qui permettent de battre leur campagne. Ces jeunes gens regroupés se livrent à des actes déplorables. Préoccupés, Arsène Kassiama, qui redoute le pire dans les jours qui viennent, invite ses candidats à instruire leurs partisans pour que la campagne se poursuive calmement. Il est joint par Irène Mboma.
Ce que nous demandons, c'est quoi? Aux candidats, députés nationaux comme provinciaux, de pouvoir instruire leurs bases pour qu'il n'y ait pas un débordement, pour qu'il n'y ait pas des attaques contre le camp de l'autre parti politique. Parce que je pense qu'à la fin, ça aboutira très mal. Il y a un début là, très chaleureux, très houleux, ça crée déjà des désordres au niveau de la cité. Parfois des blessures, et très souvent c'est la police qui a dispersé la nuit avec des coups de balles. Vous voyez que ça ne va pas. Mais pour le moment, ils sont en train vraiment de prévenir, d'appeler les partis, les candidats députés nationaux comme provinciaux, de prévenir ces dangers qui pourraient arriver un jour.
À Bunia, il s'observe une baisse depuis ce vendredi matin du prix des carburants à la pompe. Les litres coûtent 4 000 francs au lieu de 10 000 francs il y a quelques jours. C'est le résultat de l'arrivée hier soir et ce matin de plusieurs camions-citernes transportant les produits pétroliers dans la ville. Ils étaient bloqués depuis plus d'une semaine sur les tronçons Pissot-Dina sur la route nationale 27 à cause du mauvais état des routes en cette saison pluvieuse. Cette bonne nouvelle intervient après l'envoi par le gouvernement provincial d'un prestataire qui a utilisé des équipements adéquats qui ont permis de décanter la situation. La population s'en réjouit et Martial Kizabemungu nous donne le reportage.
Large sourire affiché pour des dizaines de clients que nous avons retrouvés au centre-ville de Bunia devant différentes stations-service pour s'approvisionner à carburant. Tous sont ravis de constater la baisse. Les litres d'essence est des 4 000 francs congolais contre 10 000 comme c'était le cas depuis plus d'une semaine, ce qui avait entraîné l'augmentation des prix des transports en commun. Des taximens des motos expriment leur satisfaction.
Nous disons d'abord merci, nous étions en train d'acheter un litre 10 000 francs, mais comme le prix est revenu à 4 000 francs, nous sommes satisfaits.
Daniel Mugisa, président des importateurs des produits pétroliers, salue les efforts qui ont été fournis par les autorités et qui ont permis, selon lui, à ouvrir les passages aux camions-citernes. Il appelle tous les pétroliers à se conformer au nouveau prix des carburants à la pompe.
Je remercie son Excellence Mgr Luboya Kashama pour les efforts fournis d'envoyer la société Mogabao pour aller vers Pitso et vers raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de baisser les prix pourvu que la population puisse en bénéficier.
Cependant, les travaux de réhabilitation de la route Pitso-Djina jusqu'à Igabarrière se poursuivent. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'université chrétienne bilingue du Congo, en partenariat avec Merci Corps dans son programme Tudjenge, organise une formation en entrepreneuriat au profit des jeunes de Beni. La formation s'étale du 22 au 25 novembre et s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Cette semaine se tient au mois de novembre de chaque année. Une vingtaine de jeunes sont ciblés par le programme Tudjenge pour découvrir les talents cachés et les aider à améliorer leur façon de créer des richesses. Anissa Mohiwa Benedictus, un des formateurs et coach en entrepreneuriat, s'exprime au micro de notre stagiaire Rose Kitenge Maoua.
La semaine mondiale d'entrepreneuriat, elle est organisée dans le monde entier au mois de novembre. Et pour cette année 2023, elle a été organisée dans la semaine du 13 au 19 novembre. L'UCBC, avec son partenaire MerciCorps, a proposé de la célébrer dans cette semaine du 20 au 25, dans l'objectif de promouvoir d'abord l'entrepreneuriat, mais aussi l'entrepreneur lui-même, aussi développer les potentiels entrepreneuriaux qui existent dans les jeunes de la ville de Beni. Pour nous, ça va être une semaine qui va nous permettre de découvrir les différents talents. Le participant à notre formation sur le jeune qui sont déjà dans notre programme Tujenge, que nous sommes en train d'exécuter avec notre partenaire MerciCorps sous le financement de l'USAID, mais aussi nous avons fait un appel à manifestation d'intérêt pour participer, que ces jeunes arrivent à créer plus de richesses qui vont contribuer au développement économique de la région.
Actualité internationale.
Au Tchad, le Conseil national de transition qui fait office des parlements du Tchad a adopté hier jeudi 23 novembre la loi d'amnistie proposée par le gouvernement. Ce texte couvre tous les participants civils ou militaires déjà poursuivis ou non aux violences du 20 octobre 2022 qui ont fait 73 morts selon le gouvernement et au moins 218 selon la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Issu de l'accord signé fin octobre à Kinshasa avec l'opposant Succès Masra, il fait débat dans le pays et les défenseurs des droits humains s'inquiètent d'une forme d'impunité.
L'invité.
Notre invité ce midi est le professeur Paul Tchawa, secrétaire général au ministère de l'Environnement au Cameroun et membre du panel sur la problématique des conflits régionaux liés à la gouvernance foncière qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Il analyse des pistes de solutions pour une coopération régionale durable et la promotion de la zone de libre-échange en Afrique. Il s'entretient avec Isaac Remoyope, notre envoyé spécial à Addis Abeba en Éthiopie.
Vous êtes un membre du panel qui a exposé sur les liens qu'il y a entre les conflits régionaux et les problèmes de gestion des terres. De manière d'abord sommaire, quel lien vous établissez entre la gouvernance foncière et les conflits régionaux?
Vous savez, on ne peut pas adresser la question des conflits, surtout à l'échelle régionale, si on ne prend pas en compte la gouvernance foncière. Et qu'est-ce que j'entends par gouvernance foncière? C'est un ensemble qui comprend les textes, les règles d'accès, d'usage, les droits, mais également les institutions, c'est-à-dire des personnes ou des structures étatiques ou à un niveau inférieur qui règlent tout cela. Il faut donc forcément à un moment donné qu'on mette des articulations en place permettant d'harmoniser les institutions et surtout les règles interpays et puis qu'on fasse fonctionner ce qu'on appelle les instances économiques au niveau régional. Mais j'ai évoqué aussi tout à l'heure une difficulté d'un tout autre ordre. Quelquefois, la stabilité politique de nos pays joue. Quelquefois, au sommet de l'État, ça change brutalement et on remet en question les choses, les accords sont gelés et ça n'arrange pas les conflits.
Vous avez déjà relevé quelques causes de ces conflits régionaux, mais est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, qui justifient que dans presque tous les pays en Afrique, il y a toujours ce problème de conflits régionaux qui met à mal un peu cette vision de l'agenda 63 pour la zone de libre-échange continentale en Afrique?
Les défis récents sont en lien avec la croissance démographique et les effets du changement climatique. C'est des défis récents. Cela, du coup, déclenche ce qu'on appelle une compétition d'accès aux ressources. D'où les mobilités, d'où des dynamiques qui prennent des itinéraires nouveaux, qui enjambent les parcs nationaux, qui traversent des espaces agricoles. Il faut véritablement des outils supranationaux pour permettre de fixer les couloirs, d'affecter les terres et d'éviter que ces mobilités ne donnent lieu aux conflits qu'on constate.
Vous êtes professeur, chercheur, pour évoquer par exemple le cas de la RDC où on voit vraiment un afflux, un mouvement migratoire vraiment important. On parle des Mororo qui viennent du Tchad, qui s'installent avec leurs bêtes et même avec des armes, on voit les ADF. Est-ce qu'on peut dire par exemple le cas de l'Afrique centrale et de la RDC en particulier, qu'elle est victime peut-être de ces ressources?
Oui, moi je pense que c'est un cas d'école, victime de ces ressources, mais également, vous savez, pour parler de la RDC, moi en tant que géographe, quand je parle de la RDC, j'évoque systématiquement sa superficie. C'est un très grand pays en superficie. Et chaque fois que vous avez un pays de cette taille-là, le pouvoir central doit être très fort pour contrôler toutes les périphéries. Ou le pouvoir, sans où au niveau national, on doit consentir soit à recourir aux régions suffisamment autonomes,
donc le fédéralisme,
ou le fédéralisme. Si on met une croix sur toutes ces possibilités-là, les périphéries vont toujours être des passoires, avec des risques que l'on constate, notamment dans le cas d'espèce, c'est dans le Kivu encore, une fois de plus.
Les panélistes ont évoqué qu'il y a escalade des violences dans la partie de l'Afrique centrale et attire même l'attention de l'Union africaine pour qu'on puisse se pencher sur ces problèmes. Selon vous, quelles peuvent être pendant des pistes et des solutions?
Franchement, sans jouer à l'apprenti sorcier ou au prestidigitateur, je pense que la première chose serait de faire en sorte que les instruments créés par l'Union africaine en la matière soient diffusés, connus et appliqués.
Lesquels, par exemple?
Il y a un guide dédié au pastoralisme qui date de 2022. Je me demande si c'est bien connu, je me demande si c'est diffusé, je me demande s'il y a des moyens qu'il faut et des stratégies qu'il faut pour que cet important instrument rentre en application. Pour qu'il ait la force, il faut qu'il ait été adopté, validé au niveau du sommet des chefs d'État. Mais pourquoi n'est-il pas appliqué? Donc commençons par là et impliquons également les communautés, mobilisons la recherche pour bien comprendre particulièrement l'influence des défis nouveaux, changement climatique notamment. Mais pour moi, il s'agit véritablement, compte tenu des enjeux, compte tenu de l'échelle transfrontalière, que les instruments au niveau supranational soient appliqués. On constate simplement qu'il y a un certain nombre d'outils qui tardent à être implémentés et l'Union africaine devrait se donner les moyens. Maintenant, il y a d'autres priorités. Il y a ce qu'on appelle aussi des contingences, des conflits qui surviennent ou qui peuvent faire en sorte que les moyens soient réaffectés à d'autres choses.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition du journal de midi sur Radio Kapi, supervisée par Alain Irung, coordonnée par Jacques-Yves Molima, mise en onde par Alain Goyi et présentée par Fulbert Balolagué. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné et merci à vous de nous avoir suivis.